Bonsoir à toutes, à tous. Je vous souhaite d'abord une bonne année 2015. Que vous souhaitez, outre la santé, peut-être l'intelligence du cœur et de l'esprit. Voilà, que chacun puisse progresser à son niveau et à sa manière. Entrer dans une plus grande intelligence de la foi pour pouvoir la transmettre aujourd'hui. C'est ça quand même l'enjeu de la théologie. Alors on a interrompu pendant 3 semaines, on a encore 3 séances devant nous pour terminer l'ensemble du parcours. Je vais donc un tout petit peu reprendre, je dirais, l'essentiel de la deuxième partie en 5 points assez rapidement. Pour que vous voyez de nouveau l'enjeu de ce que nous faisons dans cette partie. Donc la deuxième partie, je reviens au titre, à la page 81 de votre polycopier. L'homme créé à l'image de Dieu, radicalement marqué par la fragilité et le péché, mais sauvé par la grâce du Christ. Donc, d'un point de vue théologique, il s'agit dans la deuxième partie de situer la question du salut pour nous et pour nous les hommes, il est descendu du ciel, de situer cette question du salut, le versant christologique de l'anthropologie, dans l'économie du salut, dans le récit du salut, dans l'ensemble du parcours. Donc ça, c'est l'enjeu de cette deuxième partie. Notamment, c'était l'enjeu du premier chapitre où nous sommes remontés de l'épître aux Romains qui nous donne la totalité, si je puis dire, de l'économie avec les figures d'Adam et d'Abraham. Nous sommes remontés vers le récit de la Genèse. Alors, il ne s'agit pas de présenter la question du salut en elle-même, et ça c'est le sous-titre de cette deuxième partie, mais de l'inscrire dans le cadre de l'anthropologie contemporaine. Non pas hier, mais aujourd'hui. La signification pour aujourd'hui, comprendre la structure de l'expérience du salut dans le cadre de l'anthropologie contemporaine. Donc le sous-titre de cette première partie, et c'est dans cette partie que je vais essayer de répondre un peu davantage, mais à la question, mais le salut, comment le comprendre, qu'est-ce que c'est? Alors on va aboutir à la partie de ce point de vue la plus importante du cours, aux pages 107, aux pages 107 qui tentent de répondre à ça, jusqu'à 114, voyez sous la formule « accéder à la source de la vie ». La métaphore, je dirais, du chapitre 4 de Saint Jean, la Samaritaine. Et donc, je vais reprendre une sorte d'itinéraire en plusieurs étapes dans ce chapitre, le dernier, le quatrième chapitre. Ça sera donc l'aboutissement, inscrire l'expérience du salut dans l'anthropologie contemporaine. Comment aujourd'hui reformuler cette question ? Voilà, donc ça c'est le grand cadre, c'était ma première remarque. Alors ensuite, deuxième remarque, je viens de dire dans le premier chapitre, nous avons relu le texte de Romains et de la Genèse, et à la fin de ce premier chapitre, si vous voulez bien regarder, à la page 91, j'ai introduit ici une distinction tout à fait décisive qui rend la question du salut si difficile est la question de l'homme. C'est-à-dire, les textes relèvent tous d'une conception holistique de la société. Donc, vous voyez le problème anthropologique des relations sociétaires, la page 91. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une société différenciée, une anthropologie différenciée, relationnelle, non plus une anthropologie du corps et de l'âme, mais une anthropologie de la corporéité. La corporéité est en fait de différents niveaux de relations. J'y reviendrai tout de suite dans quelques instants. D'où l'importance, au fond, on pourrait dire qu'il faudrait réécrire les Écritures aujourd'hui dans une autre société, un autre type de société. Ça, c'est l'enjeu de l'inculturation. Ce que Gaudium et Spes, précisément, a tenté de faire pour la première fois, dans sa première et sa deuxième partie, je n'y reviens plus, vous rappelez de cela. Et intervient ici le modèle généalogique à cet endroit-là, c'est-à-dire l'anthropologie contemporaine tente de décrire la genèse de l'anthroposphère et nous fait découvrir que finalement l'écriture dans un autre type de société a déjà fait cela. Le terme genesis ou télédote en hébreu dit bien, je dirais, cet enjeu fondamental. Donc le modèle généalogique, le passage de l'écriture pris dans sa totalité vers une autre manière de refaire, au fond, aujourd'hui, dans un autre type d'anthropologie contemporaine, la même opération. Et au cœur de cette opération, il y a évidemment une conversion, et c'est au fond le passage, pourrait-on dire, si vous regardez de nouveau à la page 91, il y a ce texte de Galates 3 en bas, que je cite, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » Donc l'itinéraire de conversion, c'est du « et » vers le « ni », pourrait-on dire, d'un point de vue logique. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer à la fin de cette deuxième partie, l'itinéraire. C'était ma deuxième remarque. Maintenant, la troisième remarque, on va un peu plus loin. Vous allez à la page 94. Si nous regardons, et ça c'est l'enjeu de l'ensemble du deuxième chapitre, la genèse des sociétés humaines au sein d'un environnement gravement menacé, si on regarde maintenant, je dirais, l'anthropologie contemporaine, et on procède un peu en forage, pour utiliser cette image, vous voyez, où la métaphore du niveau, il y a différents niveaux de profondeur. On peut parler aussi du zoom, vous voyez. On passe d'une perspective plus large vers une perspective plus précise. Donc on peut distinguer ici plusieurs niveaux. Donc vous voyez ça à la page 94. Il y a d'abord la distinction fondamentale entre nature et culture. Donc l'homme comme un être indéterminé, radicalement indéterminé, un être de désir, vous rappelez le désir d'une plénitude, le désir de tout, et qui doit se donner forme, et il le fait d'une manière multiple dans une culture, et c'est là où intervient toujours la figure de la loi. Est-ce que c'est la loi de l'inceste? Peu importe, j'ai dit les détails, c'est-à-dire la régulation du rapport à l'autre, l'altérité. Ça, c'est, si vous voulez, je dirais un premier niveau. Et un deuxième niveau, plus précis, et on a toujours en arrière-plan l'Épître aux Romains et la Genèse, l'homme est fait l'anthroposphère et le passage insaisissable. C'est très important ce point. Il n'y a pas d'abord la nature et ensuite la culture, mais c'est le passage lui-même. Rappelez-vous la citation de Lévi-Strauss qui est à la page précédente. Donc un passage insaisissable à culture, cette émergence de l'anthroposphère implique différents types de rapports. Et alors il y a le rapport de l'homme à la nature, il y a le rapport de l'homme et de la femme avec toute la question de la sexualité, deuxième niveau. Troisième niveau, c'est-à-dire les relations collectives. Qu'est-ce que c'est la collectivité, la société avec le problème du lien social? Et tous ces niveaux s'articulent à l'intérieur de ce qu'on appelle la corporéité. Donc là, je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit dans la partie introductive, précisément sur une anthropologie de la corporéité. Des corporéités signifiantes les uns par rapport aux autres. Et le troisième niveau, Alors, qui émerge avec force dans la philosophie à partir du XVIIe siècle, c'est l'énigme de la violence, la question de la violence, avec tous les problèmes, évidemment, que ça pose d'interprétation. Est-ce que la violence est à l'origine, au commencement, disons plutôt, ou est-ce que la violence est seconde, etc. Alors, il y a une manière, si vous voulez, de préciser ce troisième niveau, et que c'est tout le développement de la page 95 à la page 97 sur ce qu'on appelle les dialectiques, dont Hegel est l'inventeur, si je puis dire. Vous avez là pour la première fois une réflexion, une généalogie de la société, mais qu'on retrouve évidemment chez Karl Marx d'une autre manière, les mêmes dialectiques, notamment celle du maître et de l'esclave. On le retrouve chez le père Fessard et le père Pousset. Et le dernier texte de votre dossier, je vous invite vraiment à le retravailler tranquillement. Vous avez le commentaire. C'est un texte, à mon avis, tout à fait décisif pour réfléchir à cette question de la violence. Donc, cette double dialectique, il y en a trois dans l'Épître aux Galates. Pousset y revient aussi, le père Fessard, le juif et le grec, mais nous laissons tomber ça pour le moment, c'est pas l'enjeu ici. C'est au fond des scénarios, pourrait-on dire, des récits, des nouveaux mythes, entre guillemets, au meilleur, au sens le plus positif du terme, des remontées généalogiques pour faire comprendre quelque chose de l'être humain, et qui est le problème de la violence. Donc vous avez la première dialectique, si la violence n'aboutit pas au meurtre, un des deux doit céder, donc le vaincu, et il y a le vainqueur, le premier existe pour lui, le vaincu existe pour le vaincu, pour l'autre, et le vainqueur pour soi. Et il y a quelque chose comme un premier contrat social qui s'établit ici, page 96. Et ensuite, je dis à le maître, c'est très bien décrit chez Hegel et chez Marx, doit lâcher de lest pour qu'évidemment l'esclave puisse nourrir le maître. Et il commence alors à ce moment-là à humaniser la nature par le travail. Et c'est le maître qui devient un nanti, un rentier, c'est-à-dire aucun savoir-faire. Et vous voyez, la dialectique va à un moment donné se renverser. Marx s'arrête ici, c'est-à-dire c'est la classe ouvrière, pas le lumpenprolétariat, pas le prolétariat, mais la classe ouvrière qui a son parti, donc Lénine, et donc il y a le combat, la lutte pour une société sans classe où les ouvriers prennent le pouvoir. Le XXe siècle a quand même beaucoup, jusqu'en 1989, vécu de cette interprétation de la dialectique du maître et d'esclave. Et c'est là où, en revenant à Hegel, et d'une autre manière, le père Fessard introduit la deuxième dialectique en lien avec la lettre aux Galates, celle de l'homme et de la femme. La première dissocie tout. La deuxième dialectique associe. Il s'agit d'une association. Association du corporel et du spirituel, pourrait-on dire, de la relation. Ça, c'est l'expérience de l'aveu amoureux et de l'engendrement, et en même temps, non pas dissociation, mais association de l'homme et de la femme. Et évidemment, je dirais pour Fessard, c'est tout à fait symbolique, c'est-à-dire c'est une dialectique universelle qui dit quelque chose très fondamental des êtres humains qui s'associent. Donc je vous ai décrit ça ici, résumé, je vous invite à lire cela. Il y a évidemment un grand absent à l'époque, c'est la question écologique, c'est-à-dire au fond la maîtrise de la nature, l'humanisation de la nature se fait sur le dos de la nature et menace aujourd'hui l'hominisation. Donc il faut évidemment, je le ferai dans la dernière partie, dans le dernier chapitre de cette partie, réintégrer cette question écologique ici. C'est tout à fait décisif. C'est l'impensé des trois dialectiques. On est vraiment dans une modernité qui n'a aucun problème à hominiser la nature en la dominant sans réfléchir sur les effets que ça peut produire. Et la deuxième difficulté que je vais maintenant traiter avec un exemple à partir de la page 98, c'est que, au fond, ce que je viens de vous dire maintenant, à l'instant, donc c'était mon quatrième point de résumé, c'est-à-dire sur le problème de la violence, les dialectiques, est un cadre ouvert. Et voyez, l'anthropologie moderne, contemporaine, fonctionne de cette manière-là. On pourrait dire que c'est une anthropologie de structure, les différents niveaux, passage de la nature à la culture, le jeu des relations, voyez, c'est quelque chose de structurel, le problème de la déformation des relations, la traversée des relations par la violence. Mais alors, comment interpréter cet ensemble-là? C'est ça maintenant la véritable question. Et on voit bien déjà entre Hegel, Marx, Fessard et Poussin, l'interprétation bouge très fondamentalement. Et donc c'est la question du sens, de la poétique du sens, comme on dit aussi, on entend derrière poésis, c'est-à-dire une créativité, donner sens à l'être humain, à sa vie en société et dans l'univers, c'est un acte créatif, s'il y a une créativité culturelle, d'où le terme poésis et poétique de sens, et le point essentiel, elle est plurielle aujourd'hui. Et c'est ça qui va être déterminant. Elle est plurielle, et donc de nouveau, même à ce niveau de grande profondeur, menacée par la violence, on le voit bien, n'est-ce pas, dans les débats aujourd'hui sur religion et violence avec l'islam, Daesh, etc. Par rapport aux années 60, le problème est devenu vraiment très, très, très actuel et d'une grande gravité. La violence, on s'en sépare pas simplement en donnant sens. Le sens lui-même peut être traversé par la violence. Alors, à partir de la page 98, je vous donne un exemple. On va passer un peu de temps avec ça, vu l'actualité, jusqu'à la page 101. C'est-à-dire, c'est la dialectique homme-femme, donc la relation homme-femme, dans le passage d'une culture holiste, qui est la culture biblique, mais toutes les cultures antiques, vers une culture différenciée. Et on tombe évidemment ici sur la grande question posée par le synode romain sur la famille. Donc, je voudrais maintenant prendre cet exemple. Alors, voyez comment c'est fait. Le point A, c'est donc en chrétienté, comment fonctionne cette donation de sens à l'intérieur de cette structure complexe que je viens de distinguer, nature, culture, le jeu des relations, le problème de la violence, comment c'est réglé à l'époque de la chrétienté et dans les Écritures. Ensuite, B, quelques remarques sur la situation actuelle. Et le point C, en vue d'une recomposition actuelle du paysage relationnel et parental, et là on est vraiment dans l'actualité la plus brûlante. Donc en vue d'une recomposition, entendez bien, n'est-ce pas, une recomposition c'est quelque chose qui se fait, on voit bien, dans nos sociétés, personne n'en est maître de cela, mais en même temps il s'agit d'une poétique de sens, c'est-à-dire notamment les chrétiens, mais d'autres aussi, donnent sens à cette recomposition. Alors prenons d'abord, je dirais, la chrétienté et donc le mariage, évidemment, comme institution qui permet de gérer la double dialectique, donc c'est le point A1, et je reviendrai à ce qu'on appelle les triabona dans quelques instants. Donc, le mariage comme institution permettant de gérer la double dialectique, donc du maître et de l'esclave. Donc, est-ce que la femme est soumise, etc. Donc, vous voyez bien, hein, le problème est là. Et l'époux, l'épouse, c'est-à-dire la dialectique de l'homme et de la femme. Et comment c'est réglé? Comment c'est réglé? Évidemment, je dirais chez saint Paul, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 7, 9, il vaut mieux se marier que brûler. Oui, vous vous riez, oui, tout à fait, bien sûr. Donc, vous voyez, on est déjà dans une certaine vision ici, qui va se déployer très largement après, c'est-à-dire le mariage, comme on disait depuis Saint-Augustin, la guérison de la concupiscentia, de la concupiscence. Donc, tu ne convoiteras pas. Vous vous rappelez, on en a beaucoup parlé de ça, c'est-à-dire le mariage qui guérit de ce point de vue cette blessure fondamentale de l'être humain. Et il est, alors voilà le point tout à fait essentiel pour nous aujourd'hui, qu'il faut vraiment comprendre, sinon on ne comprend rien au combat actuel, à la situation actuelle. Il est interprété comme institution naturelle, située du côté du commencement, révélateur de l'origine. Matthieu 18, qui est un retour généalogique, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Les pharisiens qui disent « Moïse nous a permis de donner une lettre de répudiation. » Et Jésus disant « C'est à cause de votre dureté du cœur. Au commencement, ce n'était pas ainsi. » Et donc, ce qui a ici une signification sans doute eschatologique, je vous renvoie à quelques textes tout à l'heure, mais est interprété par la tradition comme un retour à l'origine, dans l'institution, au commencement. Donc, l'institution du mariage est quelque chose de naturel, et là-dessus va se greffer, évidemment, ce qu'à partir de saint Thomas, on va appeler la loi naturelle. Voilà. Et on retrouve ça, je dirais, évidemment, dans des textes actuels. Alors, les trois biens, qu'est-ce que c'est? Je les explique dans le point 2. Voilà, les différents aspects de cette institution. Je vais la décrire maintenant. C'est la doctrine augustinienne qu'on utilise parfois encore dans la préparation au mariage, pas trop. Les triabona, les trois biens. Vous voyez, les trois biens, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord les enfants. L'institution est pour faire des enfants, proles. Ensuite seulement, la fidélité, fides, entre les époux. Et finalement, sacramentum, le serment sacré célébré. Et donc, je dis un tout petit peu plus haut, ces trois biens, c'est de l'ordre de la poétique du sens. Au fond, comment dire, voyez, on érige ici trois valeurs fondamentales. La valeur première, la vie doit continuer, les enfants, la fidélité, et le serment qu'il ne faut absolument pas renier, définitif, qui deviennent donc le sens d'une existence véhiculée par une institution qui gère la dialectique, comme nous disons aujourd'hui, du maître et de l'esclave et de l'homme, de la femme, et qui est l'institution par excellence du passage de la nature et à la culture. De la nature à la culture. Ça vous explique déjà l'extraordinaire irritation dans l'Église catholique au moment où on commence à toucher à ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, le point de départ. Alors, attention, chez Augustin, il ne s'agit pas uniquement de la procréation, mais aussi de la régénération. Non pas seulement en vue de la procréation, mais la naissance est pour la recréation, c'est-à-dire pour le baptême. Et vous avez le baptême des enfants, vous avez le péché originel derrière. Vous voyez les trois ici, procréation, renaissance, baptême, baptême des enfants, et le rapport au péché originel font ici système, sont intimement liés. Ces trois bonas ne sont pas une doctrine spécifiquement chrétienne. C'est ça qui est fort. Vous voyez, alors vous avez maintenant André Paul, le livre L'Eros et Eros enchaîné, les chrétiens, la famille et le genre. C'est un grand historien chrétien, vraiment. Et on peut discuter beaucoup de choses, mais ce qu'il dit, au fond, sur l'histoire de la sexualité dans la société hellénistique, dans le judaïsme, chez Philon d'Alexandrie, et ensuite chez le christianisme naissant, chez Jésus, est tout à fait remarquable. Donc, je vous indique ça, André Paul, Eros enchaîné. Alors, j'ai dit ici, si vous voulez, l'essentiel, il y a évidemment l'idée derrière du couple originel dans l'hellénisme. Ce point est très important, c'est-à-dire la fécondité humaine prend origine dans une asymétrie fondamentale, la divinité et la déesse terre. On ne connaît pas encore la sexualité humaine, même dans sa structure biologique, donc il n'y a aucune symétrie, aucune égalité. La femme, c'est comme la terre qui est fécondée, simplement de l'extérieur. Et donc, il y a ce qu'introduit avec force le judaïsme, c'est-à-dire une démythologisation, une démythisation et une désacralisation de la sexualité. Ça, c'est le point important. C'est-à-dire, Dieu et la création, Dieu et l'homme et la femme ne se situent pas sur le même plan. L'homme créa l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a une altérité radicale qui conduit en même temps vers une désacralisation de la sexualité. Ça, il faut jamais oublier ce point essentiel qui est l'effet du judaïsme et du christianisme. Et ensuite, André Paul le montre bien que, par exemple, la chasteté conjugale était déjà une idée forte, une valeur forte dans la société hellénistique de l'époque, et devient alors un combat au deuxième siècle, parce que c'est le gnosticisme qui va se relier ici à toute cette question. Est-ce que effectivement la chasteté, la continence radicale, est-ce que ça doit être la loi chrétienne unique? Et alors du coup, vous voyez, on est très vite dans la dépréciation de la création, etc. Voilà un peu l'arrière-plan. Alors, au lien établi par Augustin, troisième petit point, entre mariage et baptême, saint Thomas substitue le lien entre nature et grâce. Et je vous ai donné la formule du quatrième livre des sentences. Le mariage, en tant qu'il est ordonné à la vie corporelle, n'est pas sacrement, mais office naturel, officium naturale. Il relève de la nature, de la profanité de la nature. Donc vous avez là un phénomène de la sécularisation. Pour ce motif, il est mis au dernier rang de tous les sacrements. Alors il faudrait peut-être le mettre aujourd'hui, après le baptême et l'Eucharistie, tout de suite au premier. J'y reviendrai un peu à la fin de ma partie ici. Pour ce motif, donc au dernier rang des sacrements, le mariage est remis par la révélation dans sa posture originelle, je le disais déjà, par Jésus, la restauration de la création. Donc le mariage chrétien pour restaurer la création, ce qui est son rôle naturel, indépendamment du fait que le couple est chrétien ou non. Alors vous avez derrière, vous l'avez déjà senti, je le dis très rapidement évidemment, une vision hiérarchique du monde. Vous voyez, j'y reviens régulièrement à ça, hein, déjà dans la première partie et même dans la partie introductive, j'ai déjà un peu parlé de ça. Le mariage pointe vers l'origine du monde, le célibat pointe en direction de la fin du monde. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, on est comme des anges dans le ciel. Encore faut-il comprendre ce que veut dire angelos, n'est-ce pas, envoyé, hein, apôtre. Alors, il y a l'éclipse, évidemment, de la valeur prophétique et eschatologique du mariage, tout à fait décisif, la disparition de ça. Alors, avec Vatican II, le mariage reçoit de nouveau un caractère eschatologique et prophétique. Et prophétique, et je dirais au même titre que la vie religieuse. C'est peut-être un des grands enjeux maintenant. Et il y a évidemment une hiérarchie interne au mariage, l'homme au-dessus de la femme. On a des textes étonnants de ce point de vue-là chez saint Thomas, inaccessibles évidemment pour nous, et l'hiérarchie interne à l'Église, c'est-à-dire l'état de loi, de commandement et l'état de conseil, c'est-à-dire la vie religieuse est plus haute que la vie de mariage. Alors, un dernier mot, très très rapidement, ça demanderait maintenant beaucoup de choses, c'est les canonistes qui s'intéressent beaucoup à ça, le caractère institutionnel du mariage, donc l'idée d'institution qui est tout à fait liée à la notion de loi dont je parlais déjà. La loi de respect chez Kant, n'est-ce pas? La loi de l'inceste. Il n'y a pas d'humanité et de culture sans passage à l'institutionnel. Et donc, se lie ici, évidemment, institution et l'indissolubilité, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, et reçoit une valeur salvifique fondamentale dans la mesure où le « oui » du couple est relié au « oui » de Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, Dieu n'est que « oui ». Oui. Au fond, c'est la seule chose qu'il dit. Oui. C'est la grâce. Voilà. Et donc, le oui du mariage signifie cela. Voilà. Alors, on a une forte tendance dans le premier millénaire à identifier l'indissolubilité avec le contrat, le sacramentum, le serment sacré. Le ministre étant le garant de la validité du lien constitué par les époux. Par les époux. Voilà, ça, on a toujours maintenu. Et à partir de Hincmar de Reims, donc c'est la théologie carolingienne, 8e siècle, on commence beaucoup à différencier, je dis ça un peu ici, mais je vous renvoie à d'autres cours pour ça. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est-à-dire, c'est la consommation du mariage qui est la garantie de sa validité. Donc l'essentiel ne se passe pas dans le public. À la fois le public, l'institution, est tout à fait décisif, c'est là où intervient le droit, mais c'est la consommation du mariage qui devient la garantie de la validité. Et à partir de cela, vous commencez à entrer dans toute une jurisprudence sur les différents types, je dirais, de liens, finalement, qui existent. Donc, je vous ai mis un peu cela. Quand disparaît la culture catholique, la culture de la chrétienté, et ça commence au XIXe siècle, après la Révolution française, le catholicisme, notamment à Vatican I, défend évidemment le caractère naturel du mariage monogame indissoluble. Avec le schème qui est derrière, que je viens de vous expliquer, que ça ne concerne pas les chrétiens ou les non-chrétiens, que c'est quelque chose de naturel. De naturel. Alors, il faut jamais oublier les grands acquis de ce passage. Je le redis d'abord, le christianisme avec l'hellénisme, c'est une révolution culturelle. Michel Foucault le montre aussi. D'un point de vue de la sexualité, la désacralisation de la sexualité. Ça ne veut pas dire que ça a été toujours vécu et de manière conséquente, mais j'ai dit, la Bible produit, notamment les prophètes, produisent essentiellement cela. Fécondité et liens sont livrés à l'homme et à la femme. C'est la thèse de Gaudium et Spes, paternité et maternité responsables. Alors, évidemment, il y a des problèmes et qui émergent maintenant, si vous voulez, plutôt dans nos sociétés développées ou peu développées, peu importe, c'est pas la question. Le sacrement était quand même très largement compris comme restauration de l'origine et il y a le risque que cette compréhension ne répond qu'à la structure pécheresse de l'être humain. Voyez, cette identification entre la sexualité et la concupiscence, qu'on a quand même chez saint Augustin. Et la deuxième difficulté, c'est le problème de la pluralité des modèles. Alors c'est là où je vous renvoie, si vous voulez, on a fait un colloque au RSR, il y a 3 numéros, « Penser la différence dans la crise culturelle », donc c'est le numéro 3 de 2013, et de 2014, les numéros 2 et 3, et vous avez un article notamment de Godelier, Maurice Godelier, qui est Collège de France, je crois qu'il est émérite maintenant, et sur la pluralité des modèles à la fois familiaux et de parentalité. Et donc, ça vaut la peine de lire ce texte parce qu'on se donne un peu une idée, au fond, de ce que c'est ce pluralisme réel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de la situation actuelle, très brièvement, avec une citation importante à la page suivante, la page 100. Mais on commence d'abord, Casticonubii, vous connaissez ça peut-être, puis 11-1930, l'amour pour la première fois entre parmi les bona nuptialia. On ne se mariait pas pour l'amour. Pendant, ça pouvait arriver, mais les questions d'héritage, etc., vous voyez, à tous les niveaux. C'est-à-dire, on a une vision complètement idéalisée du passé de ce point de vue-là. 1930. Alors, vous avez la formule de Gaudium et Spes que je vous donne ici, que je ne vais pas vous commenter et lire. Et vous avez ensuite un parallèle important où je vous renvoie à la page 93. Regardez un peu à la page 93. Vous voyez, vous avez en 48 la Déclaration universelle des Nations Unies, donc des droits de l'homme, le article 16. La famille est l'élément, qu'est-ce qu'on lit là ? L'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Donc, vous voyez, là, on est dans une démarche généalogique et qui est tout à fait parallèle à ce que Gaudium et Spes fait en 65 de la même manière et qui est encore à l'arrière-plan de nos débats à l'heure actuelle. C'est-à-dire, le passage de la culture, de la nature à la culture, l'élément naturel dans la société, c'est la famille. Un même type d'argumentation. Donc, il faut bien avoir ça en tête, à l'arrière-plan. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'amour est entré, pourrait-on dire, mais aussi l'affectivité. Et vous voyez, aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut dire, donc, la substance du mariage est pré-sociale, de ce point de vue-là, pour le numéro 16, de la Déclaration universelle et pour Gaudium et Spes, c'est le noyau de la socialité de l'être humain et c'est, est devenu totalement affectif, vous voyez. L'amour d'abord, et ensuite on ne comprend plus très bien ce que veut dire amour, ou je dirais, on lui donne des multiples significations, c'est essentiellement devenu affectif, ce que les Africains appellent d'ailleurs la famille nucléaire des Occidentaux. Un certain concept très, très restreint, finalement, de la famille. Et d'une certaine manière, la parenté devient second par rapport au fait familial. Qui est le premier ? Qui est le premier ? Et ce qui vous explique tous les débats, c'est-à-dire pourquoi pas élargir le fait familial à des homosexuels, etc., etc. Alors ça, si vous voulez, je dirais, une mutation des mentalités qui s'est produite et qui est tout à fait décisif, greffée sur ce mythe, entre guillemets, au meilleur sens du terme, cette généalogie occidentale, hellénistique, chrétienne, juive, chrétienne, et finalement entrée dans la Déclaration des droits universels, c'est-à-dire le noyau du passage entre la nature et la culture, c'est le noyau pré-social, naturel, c'est la famille. Alors, s'ajoute à ça maintenant un deuxième élément, donc l'évolution des mentalités, la pluralisation des donations de sens dont je parlais. Prise de conscience de la pluralité des modèles d'associations conjugaux, familiaux et parentaux, des sociétés humaines et mise en question du concept de nature et de dignité originelle. Je vous ai donné la citation, je pense, du cardinal de nom de Benoît XVI devant le Bundestag en Allemagne, où il est revenu à cette question, et où il a dit « Mais je sais bien que plus personne aujourd'hui accepte ce concept, c'est-à-dire ce concept qui avait une fonction d'universalisation est devenu un concept particulier dans un pluralisme radical. » Alors maintenant la citation. Dans le dictionnaire « Catholicisme 8 », maintenant me revient plus le prénom de ce dominicain qui s'appelle Henri, je crois que c'est André-Marie. De tous les sacrements reconnus par la confession de foi catholique, le mariage est le seul qui reprenne, alors corrigez s'il vous plaît, au titre de signe, un état de vie dont les modes concrets de réalisation coulés dans les divers types d'institutions matrimoniales ont été et demeurent très diversifiés. Donc vous voyez, il reconnaît ici parfaitement le pluriel. La révélation judéo-chrétienne, phrase encore plus forte, a accueilli et purifié l'un d'eux en précisant les caractères. Le mariage sous la forme monogamique et indissoluble. Donc vous voyez là, l'opération est reconnue comme telle. C'est ça qu'a fait le judaïsme et le christianisme. Et une partie de l'hellénisme. Pluralité radicale et une sélection et avec une interprétation. L'Église a privilégié cette forme en la faisant vivre aux baptisés bien avant qu'elle n'ait acquis la conscience explicite qu'il y avait là un sacrement. Elle a entouré cette institution d'une législation propre qui, en Occident, tout au moins, fut longtemps exclusive de tout autre dans la mesure où les États eux-mêmes, en état de développement, s'en contentèrent, ce qui n'est plus le cas. Ah, maintenant oui, ce n'est plus le cas. Du fait de la sécularisation de l'ensemble de la société, ils ont désormais leur législation propre sur l'opportunité de laquelle le consensus social n'est d'ailleurs plus unanime. Nous en sommes les témoins. L'Église catholique, quant à elle, maintient la sienne à l'égard de ses fidèles. Ah, c'est toute la question. À l'égard de ses fidèles, ou plus largement dans la législation de la société de l'État français ou d'autres États. Vous voyez, la question est là. C'est parfaite cette citation. Alors, d'où une double question, et qui va ouvrir, vous voyez comment il faut vraiment défaire l'arrière-plan anthropologique global pour comprendre vraiment les enjeux des débats aujourd'hui. D'où une double question. La première, la foi chrétienne entraîne-t-elle un autre type de relation entre les époux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je le dirai tout de suite. Mais ensuite, et inversement, toute formule d'association conjugale est-elle susceptible de signifier la foi évangélique? Un mariage entre deux homosexuels peut-il, lui ou non, signifier la foi évangélique? Vous voyez, ça c'est l'autre versant de la question. C'est lui qui parle. Alors, il ne donne pas l'exemple. Il ne pouvait évidemment pas, en 79 encore, donner cet exemple. Donc, vous voyez comment les consciences et les mentalités évoluent. Mais la structure théologique que ce dominicain propose est parfaite. Elle est parfaite. Elle permet de raisonner aujourd'hui et de se poser des bonnes questions. Alors, pour la première question, mon oui, il y a évidemment une critériologie théologique. Premièrement, l'unicité et l'altérité de Dieu ne peuvent s'exprimer que dans l'unicité et l'altérité du partenaire comme universel concret. C'est ça l'enjeu de l'indissolubilité du mariage. L'universel concret du partenaire, et passage obligé vers l'altérité de Dieu. L'autre n'est plus pur passage vers l'autre, mais constante manifestation de la fidélité de Dieu. Ça, c'est le sens. Alors, pour Jésus, c'est pas une loi. Je vous renvoie de nouveau aux trois numéros. Vous avez deux textes absolument remarquables d'André Vénin sur la question. Voilà. Donc, ça, c'est la raison fondamentale. C'est-à-dire, la fidélité de l'un à l'autre et de l'autre à l'un devient le passage vers Dieu. C'est ça la raison fondamentale. La radicalité de cette position croyante ou prophétique paraît aujourd'hui plus nettement devant la pluralisation des modèles d'association conjugale, évidemment. Mais on reviendra à cette question précisément dans mon dernier chapitre. Parce qu'évidemment, il faut nuancer ça, mais il faut d'abord comprendre la raison d'être. Si Dieu se révèle une fois pour toutes, oui, si on n'a qu'une vie, pour le dire comme ça, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas plusieurs vies, je n'ai qu'une seule vie. La mettre en jeu par rapport à quelqu'un, c'est la manifestation du une fois pour toutes de la révélation de Dieu. C'est ça la raison d'être théologique, fondamentale de l'indissolubilité. Alors les conséquences, évidemment, dans l'Église, on est obligé de redéfinir le rapport entre les états de vie, différence et égalité. Il n'y en a pas de dessous et de dessus, c'est-à-dire la vie consacrée n'est pas plus que le mariage. Les deux sont prophétiques et eschatologiques. Donc, avec deuxième élément, plus difficile maintenant, la disparition de l'idée de nature et d'officium natural dans la société au profit de l'historicité des existences humaines. Et on pourrait dire, du point de vue d'une théologie de l'histoire, que l'histoire humaine, depuis son début jusqu'à la fin, est traversée, je dis bien du point de vue chrétien, par une sorte de discernement ou de jugement à long terme entre la sacralisation de la sexualité, dont on n'est pas du tout libéré, évidemment, dans une société de consommation, la sexualité est utilisée à tous les fins, évidemment. Et le Dieu unique se manifestant toujours de manière cachée dans le type d'association conjugale prônée par Jésus de Nazareth. Voilà, c'est une autre manière de ne plus utiliser le terme de nature pour argumenter ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? J'anticipe un peu le dernier chapitre de cette partie. En vue de la recomposition actuelle du paysage relationnel et parental, et donc il y a simplement deux points et un dernier qui anticipent. D'abord, je dirais sur le plan individuel. Je reviens un peu au début. Donc, vous voyez, la notion de Hannah Arendt et de Paul Ricoeur de l'identité narrative. Vous connaissez peut-être, c'est-à-dire l'identité dans son extrême complexité avec les discontinuités qui la traversent, c'est celle dont je peux rendre compte, entre guillemets, en la disant, en la racontant, l'identité narrative. Alors, si je prends donc les récits individuels, il y a une double prise de conscience, une prise de conscience de la pluralité des modèles au niveau synchronique. Regardons honnêtement nos familles, les familles de nos amis. Regardons-les et faisons pas un discours idéaliste, réel. Les pacs, cohabitation, mariage à l'essai, mariage, divorce, remariage, association de deux homosexuels, etc., etc. C'est ça le réel. Et le synode, pour la première fois, commence à enregistrer le réel et de ne pas nous proposer simplement un discours idéaliste. Donc, pluralité au sein de l'Église. Pluralité des cultures aussi au sein de l'Église. Le mariage en Afrique, au Gabon, au Brésil, c'est pas la même chose qu'à Paris, à New York, ou en Creuse, ou que je sais encore. Deuxième élément, au niveau diachronique, le problème analogue de diversification en raison de l'allongement de nos existences, donc des phases de l'existence. Séparation par rapport aux parents, phase générative, crise de sens introduite par la phase post-générative, etc., phase de vieillissement. Faut-il interpréter cela uniquement en termes de crise? Dans la chrétienté, tout allait bien, et maintenant, on entre dans des sociétés complètement chaotiques? Ou s'agit-il d'une mutation culturelle? La diversification des modèles culturels. Et du coup, si vous voulez, ça vous explique, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, la théologie politique qu'on a un tout petit peu fait à la page 94-95. Finalement, la formalité de la législation qui est pragmatique, c'est-à-dire la législation ne véhicule plus une idéologie ou un sens, mais elle tente au mieux, de réguler les situations multiples, sans véhiculer un sens ou une éthique, dans une société ouverte. Et là, il y a quelque chose qu'on peut diagnostiquer maintenant, que tout le monde qui prépare des mariages, par exemple, il est affronté à cela. Premièrement, on est sorti d'une pure éthique de conformité à un modèle unique. Au fond, le problème pour chaque couple qui est en train de se former, c'est de choisir non pas de se conformer à tel ou tel modèle éventuellement familial ou dominant, mais de choisir son modèle, son style de vie, sa manière de vivre. Et le deuxième élément, il y a quelque chose évidemment ici qui est extrêmement stressant et difficile à vivre, c'est la mise à nu des sujets et le stress de beaucoup de nos contemporains devant cette situation, parfois psychiquement épuisante, et on est devant des bricolages. Voilà, si vous voulez, je dirais la situation sur le plan individuel, qui, le regard réaliste, nous empêche pas, au contraire, nous oblige à manifester quel est le caractère prophétique du mariage chrétien. Évidemment, j'en ai parlé avant. Alors, les enjeux sociétaires sont encore plus complexes d'une certaine manière, parce qu'ils concernent la compétence et le rôle du législateur dans une perspective d'auto-institution de la société. Vous voyez, où il n'y a plus de nature qui est derrière, qu'il faudrait pouvoir suivre. On est dans un pluralisme. Ça suppose, premièrement, l'autolimitation du législateur. Il n'est pas chef de ça, souvent. Parce qu'il risque de devenir idéologique. On a quand même assisté à cela. L'idéologisation du débat. Alors ensuite, il doit évidemment gérer une pluralité de modes d'association conjugale avec le principe de justice et d'égalité. Et troisièmement, alors là, ça relève de la norme, et je vais citer ici une auteure qu'on ne peut pas soupçonner d'être catho, Irène Théry. L'ouvrage « La distinction de sexe, une nouvelle approche de l'égalité », qui est vraiment un ouvrage très intéressant et qui mérite d'être travaillé, c'est-à-dire il faut maintenir, et ça c'est le principe fondamental, la lisibilité de la filiation. La lisibilité de la filiation. Et là, il y a d'ailleurs quelque chose qui est commun, un intérêt commun entre le judaïsme et le christianisme sur ce point. Alors, lié au principe, je vous donne les deux citations de l'égalité. L'État ne peut niveler la distinction des sexes et son implication nécessaire dans la parenté. citation, tous les systèmes de parenté, alors là tous, vous voyez, dans leur pluralité radicale, par les anthropologues, accordent une signification fondamentale à la personne de chaque enfant, accueilli dans un monde institué, dans un monde symbolique, institué, c'est ça que ça veut dire. Garçons et filles, chacun de nous n'est certes que d'un sexe, alors on ne parle pas ici des transsexuels, c'est une autre question que je mets de côté, mais est pourtant signifié comme constitué de deux. Signifié comme constitué de deux. Donc il faut maintenir ici, comme distinct et uni, à la fois ce principe de signification, sans lequel il n'y a pas de symbolique. Donc, de deux, un, de deux, un, c'est-à-dire constitué de deux, signifié et pourtant d'un sexe, et l'adoption, l'adoption qui a évidemment toujours existé. La question de la filiation et de la parentalité, donc la construction de l'identité narrative des parents, alors ça c'est un principe extrêmement fort et je trouve un principe éthique tout à fait remarquable, anthropologique, la construction de l'identité narrative des parents, pensez à deux homosexuels ici, ne doit pas rendre a priori difficile, voire impossible, la construction de l'identité narrative des enfants eux-mêmes. Normalement, le rôle d'un système de parenté est d'assurer cette compatibilité en précisant le sens que nous accordons à des catégories telles que parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, frères ou sœurs, oncle ou tante, etc. C'est exactement ce que fait la Genèse, le livre de la Genèse. Ces catégories statutaires ne définissent pas les individus par des attributs ou des propriétés. Vous voyez, c'est pour ça que dès le départ du cours, j'ai refusé ici toute ontologie substantialiste, mais elle est d'emblée relationnelle, symbolique. Elle énonce ce que chacun peut attendre des autres comme partenaire d'une vie sociale, cette vie sociale incluant toujours la parenté sans s'y résumer. Son rôle particulier est d'offrir un langage normatif commun. Vous voyez, une société n'existe pas sans ce normatif, situant nos vies singulières au sein d'un univers signifiant partagé par tous, dans lequel les distinctions de sexe, d'âge et de génération sont des principes relationnels permettant de faire société ensemble. Donc vous voyez, on est ici dans une négociation extrêmement complexe où il faut à la fois maintenir, si vous voulez, je dirais, cet ensemble symbolique, cet univers de relations. Donc c'est peut-être ça l'élément normatif à maintenir et en même temps ça ne rend absolument pas impossible les adoptions qui sont encore d'un autre ordre. Mais il ne faut pas que la construction de l'identité narrative des parents rend a priori difficile, voire impossible, la construction de l'identité narrative des enfants eux-mêmes. Voilà, donc vous voyez ce que j'appelle ici poétique de sens. Donc on est dans ce seuil à l'heure actuelle, dans l'anthropologie chrétienne, extrêmement difficile, où nous traînons encore, vous voyez, je dirais, un autre univers avec nous, et des catégories d'un autre univers, et avec cet autre univers, nous tentons de régler des questions nouvelles qui sont en train de se poser, et il faut les situer, évidemment, tel que je viens de le faire, dans un ensemble. Donc une poétique de sens plurielle et l'éthique qui en découle nécessite qu'on comprenne, voyez, le théologique au sein de la genèse de la société, qu'on comprenne le sacramentum, non seulement en fonction du risque que représente la sexualité humaine, donc ça c'est plutôt une certaine tendance augustinienne dont on a déjà parlé dans le premier chapitre, mais aussi et surtout comme source et dans une perspective prophétique qui doit inclure l'avenir du globe à maintenir habitable pour les générations futures. Voilà, on va faire la pause, il est 5 heures, et ensuite, vous allez voir, il y aura un chapitre un peu particulier sur la notion de sens, et vient à la fin la reprise globale de cette partie, et j'espère pouvoir m'expliquer un peu ce que peut vouloir dire aujourd'hui « salut ». Bien, donc on va recommencer. J'introduis ici, avant d'arriver au chapitre 4 que j'ai déjà annoncé, qui tente de préciser, de déterminer davantage pour nous aujourd'hui, dans notre anthropologie, ce qu'on peut appeler l'expérience du salut. J'introduis un chapitre, un peu de passage, donc c'est le 3e à la page 102, intitulé « Le caractère problématique de la vie et l'expérience de la contingence et du mal ». Donc c'est un chapitre qui tente davantage d'expliciter cette poétique de sens dont on vient de parler. Différentes manières d'habiter, c'est le sous-titre, le monde s'affronte et communique entre elles. Donc c'est ce pluriel, ce pluralisme dans lequel nous vivons. Des mondes de sens, des mondes symboliques. Alors la question, je dirais, de la contingence, de la finitude, de la mortalité, je l'ai déjà abordée. En essayant de trouver davantage de clarté, donc c'est à la page 80 du polycopié, tout à la fin du premier chapitre, vous rappelez, j'avais un peu repoussé progressivement les questions, et une des questions centrales, que veut dire, et par le péché d'un, la mort est entrée dans le monde. Donc j'ai essayé de me débrouiller théologiquement avec cela, la question de la mortalité. La mort n'étant pas seulement comprise comme salaire du péché, mais comme devenant acceptable ou recevable pour celui qui croit et espère d'y rencontrer un Dieu qui en sait quelque chose. C'est un peu la formule que j'avais proposée, j'y reviens pas. Donc voyez, c'est avec ça que je suis en train de renouer. Et il s'agit de situer cette question du caractère problématique de la vie, de la finitude, de la mortalité, à l'intérieur donc d'une conception généalogique de la société qui est ouverte à une pluralité de sens, de donation de sens, de postulation de sens, et qui le fait toujours d'une manière très concrète, nous allons le voir. Donc il s'agit de repérer des lieux où une conversion au Dieu de Jésus-Christ devient possible à l'intérieur de l'anthroposphère. J'ajoute encore qu'il ne faut pas réduire cette expérience de contingence à la fin de notre existence, donc la question de la mort, mais avec Bonnefer, je pense qu'il faut vraiment y inclure les réalités avant-dernières, c'est-à-dire ce qui est problématique dans nos vies au jour le jour. Et au fond, ce que j'ai dit des dialectiques tout à l'heure et la dernière fois avant les vacances révèle bien, je dirais, à quel point nos relations humaines sont le lieu par excellence du caractère problématique de la vie humaine. Voilà, cela un peu comme exergue pour situer ce chapitre. Alors, le caractère problématique de la vie et l'expérience de la contingence, il s'agit maintenant donc de déployer davantage cette notion de vie qui nous accompagne depuis le début, et de distinguer ici deux niveaux. C'est pas évident du tout, vous allez le voir, dans cette expérience fondamentale de la vie que nous faisons. Donc il y a un premier niveau, nous ne nous posons pas quotidiennement la question du sens de notre existence, et encore moins sous une forme intellectuelle. Et donc, heureusement, on ne fait pas des études au Centre Sèvres pendant toute son existence, même si certains aiment bien prolonger un peu les choses. Mais je dis, dans la vie quotidienne, le sens s'inscrit dans nos manières d'exister, progressivement. Une multitude de styles de vie et de modèles de socialisation. Le caractère problématique, quelques points un peu de type phénoménologique, le caractère problématique de la vie vient de cette multiplication de modes et de manières de vivre qui coexistent autour de nous et qui sont investis par l'économie de la consommation, nous le savons bien, mode vestimentaire, d'habitat, de recherche d'un partenaire et de s'en séparer, mode d'éducation, des canons esthétiques, de beauté, de sport, de loisirs, tout ce qui marque, au fond, je dirais, la manière de vivre de nos contemporains et qui prend une très très large partie de leur investissement quotidien. Le sens s'inscrit ici, concrètement. Et alors, paradoxe, dans nos sociétés, cette diversité n'est plus régulée par un fort contrôle social. Au contraire, chacun peut vivre son propre style, hein, sa propre manière. D'où la formalité du droit, devenue pragmatique, je l'ai dit avant la pause, même dans le domaine des questions les plus fondamentales de l'existence, je le renomme ici, divorce, procréation, avortement, etc. Mais en paradoxale asymétrie, forte avec la dureté des processus de travail, chômage, stress, etc. Donc d'un côté la libéralisation du contrôle social et en face les processus de travail sont devenus de plus en plus complexes et de plus en plus durs. Voilà, je dirais, ce qui fait pour la plupart de nos contemporains le sentiment que la vie est difficile. La vie est difficile. Il s'agit donc de comprendre cette situation spirituelle. J'avais déjà fait une première approche, donc je vous renvoie à l'introduction. Et au fond de ce diagnostic, si je le prends d'un point de vue spirituel, il y a la difficulté de l'homme contemporain de totaliser son existence et sa vision du monde entre un commencement et une fin. Au fond, je dirais l'oubli qui marque davantage l'homme contemporain, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule existence. Donc le retrait de la vie dans une attitude narcissique du vivre intensément, et dans une socialisation qui fonctionne évidemment toujours discrète, selon une multiplicité de modèles extrêmement fluctuants. Ce caractère, dernier petit point, problématique de la vie, peut être géré selon deux attitudes opposées. Soit, je dirais, ce qui est peut-être l'attitude la plus répandue, une certaine dépendance par rapport au modèle et mode de l'environnement social avec des problèmes d'adaptation. Voilà. Comment suivre finalement cette fluctuation de propositions qui nous est faite par le monde de consommation dans lequel nous vivons. Et de l'autre côté, on a aussi, c'est pas du tout réservé au christianisme ou aux traditions religieuses, la tentative souvent épuisante de passer d'une attitude de conformité à un style fondé sur des choix motivés et libres. Vous voyez ce que j'ai appelé avant la pause, vous voyez à la page 101, c'est-à-dire un certain appel à la créativité. Conformité aux modèles qui sont proposés ou un appel à la créativité. Se greffe sur ce premier niveau un deuxième niveau et qui n'émerge que beaucoup plus rarement du premier pour s'expliciter, c'est-à-dire une vision du monde un peu argumentée et adoptée par un choix libre. Donc la pluralité des visions du monde et des attitudes fondamentales par rapport à la vie. Ce deuxième niveau, je lis le texte, n'émerge que plus rarement du premier pour s'expliciter, et il est très souvent impossible de séparer ces deux niveaux. Alors sans doute, je dirais, je reviens à mon expérience pastorale et à celle d'autres, quand on est devant des personnes, tout l'art consiste au fond, je dirais, de discerner à l'intérieur du premier niveau que je viens de décrire avec ses multiples facettes, des options fondamentales par rapport à la vie. Et ça, c'est pas si aisé que ça. Alors, le point de départ de ce discernement du deuxième niveau est la corporéité de l'être humain, j'y reviens maintenant. Et surtout, la perception du statut paradoxal de la corporéité humaine, une fois que les grands récits de l'humanité, que ce soit des récits religieux, ou littéraires, etc., s'éloignent de nous, et on est en face d'une vie quotidienne éprouvante et difficile. Et les deux points qui vont venir ici, ce que j'appelle conscience aiguë, qui émerge ici, c'est ce paradoxe. J'ai dit d'abord la conscience aiguë du caractère pulsionnel de la vie et de la vie humaine, sorte de pulsion universelle qui s'exprime dans l'immédiateté de toute existence, ce dynamisme de vie qui anime et traverse l'ensemble de l'univers, présente dans l'évolution des êtres et dans les cycles de reproduction, une sorte de devenir indéfini, peut-être le premier chantre et poète de cela, c'est précisément Friedrich Nietzsche, hein, qui est extrêmement sensible à cela. Le devenir indéfini, la vie comme naître et disparaître, jamais l'un sans l'autre. Alors je dis bien, dans la vie quotidienne, c'est oublié d'une certaine manière. C'est présent et c'est pas présent. C'est un peu ce qui colore, je dirais, l'expérience quotidienne. Alors certains, notamment Nietzsche, prennent ici la figure du cercle pour symboliser, au fond, je dirais, ce que c'est la vie. La figure pérenne du cercle, la sacralisation de la vie et le culte de la terre. Et évidemment, on retrouve ça beaucoup aujourd'hui dans une certaine alliance entre cette attitude, est-ce qu'elle est religieuse ou non, et la question extrêmement sérieuse de la transition écologique. Une sorte de philosophie vitaliste sous-jacente. Alors ça, c'est le premier versant de notre conscience. Et il y a aussi, en même temps, une conscience aussi aiguë du caractère individuel et unique de chaque forme de vie, de chaque être, produit dans l'immense production vitale de la Terre. Alors ça, c'est le deuxième aspect qui est d'ailleurs fortement souligné par les biologistes du monde animal et de l'anthroposphère, c'est-à-dire que la vie n'est jamais, ce qui serait suggéré par le cercle, la répétition du même. La vie n'est jamais la répétition du même, mais émergence du différent, du spécifique, du singulier, transformant l'image du cercle en celle de la spirale, c'est-à-dire répétitivité, oui, mais pas circulaire, mais progressive. Voilà, si vous voulez, je dirais le point de départ. Alors, comment comprendre au juste cette répétitivité de la vie et de la mortalité qu'elle implique? Une vie n'existe pas sans mortalité. Alors, deux sous forme de questions. D'abord, première question, la répétitivité n'est-elle pas le signe d'une plénitude de la toute-puissance de la vie qui ne cesse de renaître? Sous forme de questions. Finalement, dans ce flux du naître, du renaître, du disparaître indéfini, est-ce que ça ne renvoie pas à une plénitude, finalement, une profusion, hein, qui est à la fois là et qui est absente? Mais peut-être cette répétitivité indique-t-elle aussi un écart infranchissable, infini, voilà la formulation que je propose, entre le projet inscrit dans la vie et sa mise en œuvre. Aucun vivant n'est à lui seul la vie. Et ce qui crée une sorte de modestie fondamentale d'ailleurs, qu'il ne faut pas encore appeler humilité, mais aucun vivant, donc vous voyez le deuxième élément de cette conscience aiguë, conscience de la singularité, de la nouveauté de chaque existence, de chaque vivant, et en même temps, aucun est à lui seul la vie. Toute créature singulière et unique redit au fond le même désir de plénitude sans jamais l'atteindre. Et c'est là que je rejoins ce que j'ai déjà développé antérieurement sur le désir de plénitude. La corporéité comme désir de plénitude, sans jamais l'atteindre. La vie serait donc la manifestation de l'impossibilité de la vie à rendre effective sa promesse implicite. Et on le voit bien, je dirais, quand il y a un enfant qui naît, c'est comme une énorme promesse tout d'un coup qui se manifeste, qui produit d'ailleurs une joie inouïe dans l'environnement. Et en même temps, on se demande tout de suite, mais quelle promesse, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle sera tenue? Est-ce qu'elle sera tenue? Une promesse implicite à achever et qui s'annonce dans cette surabondance de la vie qui est effective. C'est sur ce paradoxe problématique, voilà la formule centrale maintenant, que se greffent toutes les attitudes fondamentales par rapport à la vie et toutes les visions du monde, et donc une poétique du sens pluriel. C'est à cet endroit-là, à ce paradoxe-là, c'est-à-dire où que l'être humain s'avère comme radicalement énigmatique, inachevé, mais toute vie est inachevée, énigmatique, qu'émerge cette créativité de sens culturel dont on a déjà parlé, au sens pluriel. Et donc c'est à partir de ce point qu'on peut tenter de faire une sorte de typologie, tentative si vous voulez, de typologie qu'on peut élargir, peu importe, il s'agit de percevoir d'abord, je dirais, un peu la problématique. Alors d'abord, je dirais, les religions suppose évidemment cette référence d'une transcendance immanente au cœur même de la vie, comme d'emblée acquise. Les traditions religieuses protégeaient les humains contre ce type d'expérience de la contingence qui suscite une poétique de sens. Alors, c'est cette expérience que je viens de reprendre ici très rapidement. C'est Nietzsche qui est sans doute le premier qui l'a formalisé à la fois poétiquement et aussi conceptuellement. Mais j'aime bien citer cette formule de Marcel Gauchet à la fin du Désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, qui dit la même chose d'une autre manière. Nous vivons dans une société psychiquement épuisante pour les individus, où rien ne les secourt, ni ne les appuie, ni ne les appuie plus face à la question qui leur est retournée de toutes parts en permanence. Pourquoi moi? Pourquoi naître maintenant quand personne ne m'attendait? À quoi bon avoir vécu si l'on doit disparaître sans laisser de traces? Comme si aux yeux des autres vous n'aviez pas vécu. Nous sommes voués à vivre désormais à nu et dans l'angoisse, ce qui nous fut plus ou moins épargné, voilà le point, depuis le début de l'aventure humaine par la grâce des dieux. À chacun d'élaborer ses réponses pour son propre compte. Voilà. À chacun d'élaborer ses réponses pour son propre compte. Et cette élaboration ressemble évidemment dans nos sociétés beaucoup à un bricolage. Je vous donne encore ici la référence à Chantal Delsol, l'âge du renoncement qui décrit très bien cela. Le terme poétique de sens indique au fond ce bricolage. Voilà. Comment fonctionne-t-il dans nos sociétés? Où s'enracine-t-il? Alors, la typologie. D'abord, ce qui est peut-être le plus répandu, le silence plus ou moins conscient devant le tragique de l'existence et les questions ultimes de la vie au sein de sa corporéité propre et face à la maladie et à la mort. Voilà, l'aphasie, le silence, plus ou moins conscient. Ou des attitudes et visions plus conscientes. Et depuis dans l'Antiquité, on en a trois, finalement. L'attitude stoïcienne, c'est-à-dire au fond le travail ascétique pour faire disparaître l'individualité. Donc un pôle, si vous voulez, de cette conscience aiguë de la vie que nous avons. L'individu ne serait qu'un vecteur ponctuel et passager du grand englobant qui est la vitalité cosmique et cyclique. Donc aimer sa propre disparition, l'amor fati, n'est-ce pas, l'amour du destin, du fatum, ou cette formule de Nietzsche, « Je vous conjure, mes frères, à la terre, restez fidèles, et n'ayez pas foi en ceux qui, d'espérance supraterrestre, vous font discours. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. » Donc voilà, j'ai dit, une sorte d'ascétisme, et le stoïcisme est une expression de cela. Alors ensuite, l'attitude opposée, les Grecs, les Hellénistes ont très très bien vu ça, hédonistes ou épicuriennes, qui soulignent l'autre pôle du paradoxe, à savoir la corporéité propre. La corporéité propre. Et qui fait l'alliance avec la société de consommation, tout maintenant et intensément, évidemment. Et la troisième attitude, la comédie, c'est-à-dire le rire, qui démasque toutes les tentatives de sauver le moi. L'ironie, un certain type d'ironie, disons. Alors, les religions, dans ce concert, si vous voulez, typologique des manières de gérer notre corporéité humaine, notre rapport à la vie, les religions semblent s'opposer à l'exigence d'élaborer ses réponses pour son propre compte. L'intégrisme s'oppose radicalement à ça, évidemment. Un fondamentalisme. Pas d'élaboration, pas de réélaboration, pas d'interprétation. Alors il faut bien dire que le judaïsme et le christianisme ont su intégrer cette exigence qui naît avec le prophétisme. Précisément. Avec les relectures continuelles, voyez, cette manifestation d'une créativité religieuse prodigieuse. C'est donc la question, comment garder ouvert le paradoxe fondamental de l'existence humaine et si problématique de la corporéité humaine. Le désir intense de chaque être vivant de réaliser ce que la vie globale de l'univers réalise pour l'humanité entière. Comme si dans une seule existence, on voudrait bien vivre la totalité de la vie de l'humanité. Et cet intense désir se heurte à l'impossibilité d'être totalement vie, chacun n'étant que parcelle unique, infiniment fragile, dépassant par ce biais le processus de la vie et des générations. Ce qui nous fait sortir, si vous voulez, de ce processus, c'est précisément la conscience de ce paradoxe. Alors, je dirais, l'attitude religieuse, telle qu'on la trouve dans le judaïsme, dans le christianisme, etc., elle produit, je dirais, dans un premier temps, elle a finalement un double effet. Dans un premier temps, l'attitude religieuse creuse l'écart entre la dynamique pulsionnelle de la vie et la singularité vivante et fait surgir l'aspiration infinie d'un dépassement du cycle vie et mort. C'est précisément de ça que Nietzsche accuse le christianisme, comme platonisme pour le peuple. Mais c'est vrai, c'est l'effet de la tradition religieuse d'accentuer l'inquietus, comme dit, n'est-ce pas, saint Augustin, inquiet, sans repos est notre cœur, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Donc, la tradition religieuse aiguise l'infini dans l'être humain. Et donc, fait prendre conscience, vous voyez, donc la relation humaine, notamment dans la tradition juive et chrétienne, la relation humaine, la relation homme-femme en particulier, étant alors considérée comme dépassant le cycle vie et mort. Et là, il ne faut pas surtout seulement citer la Genèse, mais le Cantique des Cantiques, qui est effectivement le lieu de ce dépassement d'un infini compris d'emblée comme relation. L'unicité et fragilité vont de pair, et la reconnaissance par l'autre unique et la réciprocité sont l'émergence du dépassement. Du dépassement. À l'intérieur du paradoxe même de la corporéité. Donc ça, si vous voulez, c'est un premier effet, pourrait-on dire, de la tradition religieuse juive en particulier. Dans un second temps, apparaît au sein même de la corporéité donc une ouverture, une béance, un appel à la transcendance. Et je me réfère ici à quelqu'un que j'estime beaucoup, un auteur, Viktor Frankl, qui parle du Dieu inconscient ici. Donc c'est le titre de son ouvrage qui est bien traduit en français, Le Centurion, 1975. Vous voyez, c'est un courant analytique un peu particulier qui est ni freudien ni jungien et qui permet d'approcher l'expérience de la transcendance un peu d'une autre manière. Et qui fait apparaître ici un débat de fond dans ce que je viens de vous présenter, notamment dans ce point B, concernant la corporéité. L'analyse freudienne identifie l'inconscient corporel avec le pulsionnel. Donc les deux grandes pulsions, c'est la mort, le thanatos et l'éros, vous voyez, qui sont en combat dans l'être humain. Et on revient ici à toute l'écriture mythique de l'Antiquité grecque, éros et thanatos en combat. Et la vie humaine, c'est ça. Alors Frankl va dans l'inconscient de notre corporéité, non seulement le pulsionnel, voilà le point, infiniment diversifié, mais aussi une béance spirituelle dans le corps. Voyez la vie comme promesse paradoxale, hein, cette sorte de paradoxe et tension que j'ai évoqué tout à l'heure, une plénitude qui est une promesse et qui n'est jamais réalisée. Et c'est donc apparaît dans ce paradoxe un infini, dit-il, une béance spirituelle dans le corps et l'appel à l'unification du sujet au sein du jeu de relations, l'appel à l'éternité et à l'immortalité. Donc c'est une autre manière d'approcher le corporel. Et donc ne pas regarder le spirituel comme venant après coup et de l'extérieur, mais le spirituel au sein même du paradoxe de la vie. Toutes ces visions et attitudes fondamentales, encore une fois, n'existent jamais à l'état pur, mais sont déjà inscrites dans des manières de vivre, dans nos modes de socialisation et dans nos styles de vie. Et nous, mais maintenant, devant une sorte d'alternative. Et ça, c'est donc le dernier point ici. Certains théoriciens relient cette fluctuation indéfinie, de plus en plus rapide, des modes et styles de vie à la mort de l'homme. Vous voyez, c'est devenu une thématique que j'ai déjà évoquée avec Michel Foucault, mais qu'on a déjà chez Nietzsche. La mort de l'homme. Et la fin de l'humanisme occidental inauguré en Grèce et dans les terres bibliques à l'époque axiale, c'est le terme de Jaspers, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, où vous trouvez à la fois, je dirais, la mutation socratique, ensuite platonicienne, etc., et en Palestine, donc, la mutation prophétique, etc. L'époque axiale, où émerge tout d'un coup la centralité de l'être humain au sein même de la vie. Donc on serait maintenant dans une époque, c'est aussi la thèse de Chantal Dessolles, de la disparition sous des modes très divers de l'individualité et de son appel à l'immortalité. Et en même temps, il faut bien le dire, nous assistons aujourd'hui, nous entendons aujourd'hui continuellement l'appel à un nouvel humanisme. Un nouvel humanisme. La vie de l'homme, une culture spécifique de relations, avec une certaine prise de distance par rapport au style de vie, par rapport au mode disponible dans la société, une créativité, voyez, à plusieurs reprises, j'ai essayé de suggérer cela. Alors, je ne peux pas terminer ce chapitre sans aborder très rapidement un dernier point qui arrive ici et qui est de nouveau de grande actualité. Ces multiples styles de vie, donc ça c'est la surface observable, et les options fondamentales, les visions fondamentales que certains philosophes ont pensé, Épicure, Cicéron, la Stoa, etc. Donc les visions fondamentales sont en constante communication dans nos sociétés modernes et différenciées et forment ce qu'on pourrait appeler le théâtre public de nos styles et de nos visions. Le théâtre public, avec l'opinion publique. Alors, trois brèves réflexions par rapport à cela. D'abord, première chose, il est important de ne pas perdre de vue ici la complexité de l'anthropologie contemporaine et ses différents niveaux de profondeur qui tentent d'expliciter l'énigme qu'est l'être humain. Donc vous voyez ici, je reprends les différents niveaux et j'ai commencé ce soir le cours en les rappelant. Donc la distinction fondamentale entre nature et culture, l'émergence de l'anthroposphère et le passage insaisissable à la culture avec les trois types de rapports, nature, homme, femme, sexualité, homme, femme, sexualité, relations collectives, s'articulant dans la corporéité humaine. L'énigme de la violence humaine, qui traverse les trois sphères au type de relation significative, donc avec les dialectiques, et une poétique de sens, qui se repère dans nos styles de vie, au pluriel, c'était le petit point A tout à l'heure, et qui sont souvent colorés simplement, mais parfois aussi orientés par nos options fondamentales. Voilà, si vous voulez, toute la complexité avec laquelle j'ai commencé ce soir, en profondeur maintenant, de ce que c'est l'être humain, Ces multiples styles et options, visions fondamentales, cohabitent, je le redis maintenant, dans nos sociétés différenciées et sécularisées, et donc la violence, sa gestion et les dialectiques se retrouvent à ce niveau plus élevé du sens de la vie. Et c'est à ça que nous assistons en ce moment, c'est-à-dire cette sorte de d'identification, par exemple, entre religion et violence. Alors, on peut avoir ici plusieurs types de comportements qui sont largement répandus. D'abord, le spectaculaire. Il faut bien le dire. Le spectaculaire, lié au fonctionnement de nos sociétés médiatisées, où tout passe sur la scène publique. Au fond, on n'est pas touché, c'est-à-dire dans ses instincts, dans son affectivité, dans sa capacité de compassion, de sympathie, on assiste à un spectacle. Voilà. Styles et options sont observés, exhibés, tolérés, etc. Ou l'autre attitude, au milieu de nous, subitement, on est des gens qui partent en Irak, en Syrie, passage à la violence et à l'affrontement, la violence religieuse, les violences au niveau des manières de vivre en opposition. Et voyez, apparaît ici la question à laquelle je voudrais quand même répondre un peu dans le dernier chapitre. Quelle est l'attitude qu'on pourrait qualifier sotériologique ? Donc, ni le spectaculaire. Le christianisme ne rajoute pas au théâtre du monde. Il ne propose pas non plus un théâtre alternatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas du théâtre, au contraire. Voilà. Ni le spectaculaire, ni la violence. Comment les chrétiens peuvent-ils se situer dans la nouvelle diversité qui traverse la poétique contemporaine du sens? Donc le dernier chapitre voudrait répondre à cette question. Alors, c'est donc le quatrième et dernier chapitre. Je vais introduire un tout petit peu, on va commencer, et je le reprends la prochaine fois. Alors, vous avez un titre, « Quand la rédemption fait redécouvrir l'homme comme être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Alors, ça, c'est le versant proprement théologique. Là, c'est le langage théologique. Théologiquement pur, si je puis dire. C'est-à-dire, on va de l'épître aux Romains et de l'expérience du salut, dont Paul, par exemple, rend compte, vers quelque chose de plus universel et qui concerne tout être humain, l'homme comme être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On va de l'un à l'autre. Comment la rédemption nous fait redécouvrir une donnée anthropologique fondamentale. Et ensuite, le sous-titre, accueillir l'expérience du salut dans le jeu multiforme de la communication humaine. Donc il ne s'agit pas d'une vision abstraite de la rédemption, mais comment accueillir réellement l'expérience du salut au sein de la situation que je viens de décrire dans le deuxième et dans le troisième chapitre de cette partie. Alors, vous pouvez lire le point 3 en bas, donc qui résume ce que je viens de dire. Réfléchir à partir de l'expérience de la rédemption faite par les chrétiens pour aller vers la découverte d'un type d'humanité propre qui s'exprime l'adage théologique « L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Et avec la deuxième partie du titre, « Redécouvrir en même temps que tout homme est créé à l'image de Dieu », cela signifie entrer effectivement dans le jeu multiforme de la communication humaine, ce qui veut dire savoir se situer d'une certaine façon ou selon un style précis dans une poétique de sens plurielle et diversifiée, savoir donc accueillir le salut et la grâce du Christ au cœur d'une telle situation multiforme et complexe. Alors, j'en viens donc à cet itinéraire de salut que je vous propose donc maintenant dans ce deuxième point, donc la page 107 à la page 12. Il s'agit d'un chemin qui, dans le cadre anthropologique, développé dans les chapitres 1 à 3, conduit de l'épître aux Galates à l'affirmation de la Genèse. De l'épître aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus, mon Genèse, l'homme et la femme, car vous ne faites qu'un en Jésus-Christ. Donc il s'agit d'aller de cette expérience-là à l'affirmation de la Genèse. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc quatre chemins, je souligne, d'expérience. Dans la première étape, je repars de la fin du chapitre 3 et de manière du chrétien d'aborder l'expérience de la contingence et de l'énigme de sa propre corporéité, donc ce qui était l'enjeu du chapitre précédent. La référence religieuse à la transcendance, voilà, ça c'est la thèse de départ, ouvre largement l'écart entre la dynamique pulsionnelle de la vie et la singularité vivante, et elle y loge ou y fait apparaître l'aspiration infinie d'un dépassement du cycle de vie et de mort. Ça c'est le point de départ anthropologique. Et je greffe là-dessus, sur cette expérience fondamentale, donc d'une ouverture radicale, Galates 3, 26 suivant, « Car tous, vous êtes par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc vous avez la suite plus haut. Il n'y a donc plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car vous ne faites qu'un en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est l'ensemble de ce texte que nous prenons maintenant dans sa totalité. Il y a au sein de l'expérience chrétienne un point de départ absolu et qui se greffe sur ce que je viens de dire sur l'écart entre la dynamique pulsionnelle de la vie et la singularité vivante, cette béance, cette ouverture dans notre corporéité. Il s'agit de la reconnaissance de la nudité, ça c'est fondamental, la nudité de la vie, c'est-à-dire de la fragilité et de la finitude, de notre corps, donc l'élémentaire de notre corporéité, et il s'agit de recevoir un vêtement nouveau. Il s'agit de revêtir le Christ. À cet endroit-là, il s'agit de revêtir le Christ. Augustin parle du vêtement de la grâce. Alors je traduis cette affirmation biblique et sacramentelle en termes anthropologiques. Donc il y a au point de départ une référence religieuse, cette béance, cette ouverture au sein même de la corporéité humaine. Et cette référence, nous l'appelons dans le cas précis foi, l'acte de foi, qui surgit dans la béance ouverte au sein de la corporéité humaine entre la vie, dans son flux indéfini, et sa singularisation radicale. Donc la foi, référence qui indique le dépassement et l'accomplissement du cycle vie-mort et qui explicite l'aspiration à l'immortalité, la régénération au cœur de la vie. Et du coup, ici, je le reformule encore d'une autre manière, le Dieu inconscient de Frankl prend corps en nous grâce à ce vêtement nouveau qui entoure la nudité de nos corps. Et on retrouve ici le langage johannique avec toute sa force, le Verbe ayant pris chair et se manifeste comme Fils unique, nous donne de naître de Dieu. De naître de Dieu. Donc, naître de Dieu, c'est ce Dieu inconscient dans la corporéité humaine qui prend effectivement corps ici. Et il faut tout de suite ajouter ici l'absolue gratuité de cette existence baptismale sur laquelle nul ne peut mettre la main. Voilà, si vous voulez, il y a une manière, je dirais, c'est la première étape, de décrire à partir du caractère radicalement problématique de la vie humaine et de l'existence humaine, ce que produit effectivement l'expérience baptismale. Parce qu'elle ne vient pas seulement de l'extérieur, elle vient en même temps, ce qui vient de l'extérieur, c'est la gratuité absolue, aussi du geste, et ce qui vient de l'intérieur, c'est précisément, elle se greffe sur cet appel à la vie éternelle qui jaillit de toute existence humaine. C'est à partir de cela, deuxième étape, qu'on peut donner sens à la dialectique homme-femme. Il n'y a ni homme et femme. Et, Galates, c'est pour cette raison qu'ils resteront homme et femme d'une certaine manière dans le corps du Christ. La formule, d'une certaine manière, indique ici donc un itinéraire de conversion et qui est inauguré par le baptême, par l'expérience baptismale, par la foi. Non pas le dépassement, ni homme ni femme, c'est pas le dépassement, ou ce qui serait pire encore, la négation de la féminité et de la masculinité et de leur relation. Mais la traversée de la corporéité humaine. L'expérience baptismale inaugure une traversée des deux dans sa structure à la fois pulsionnelle et unique, la corporéité, pour vivre dès maintenant des arts de la résurrection, comme dit l'Écriture, et donner dès maintenant corps au Dieu inconscient. Mais ce donner corps au Dieu inconscient, c'est un donner corps relationnel. Relationnel. Alors, on peut réintroduire ici, je vous invite, je vais m'arrêter là, je vous invite à lire 1 Corinthiens 7, qu'il faut introduire ici, qui est un texte absolument remarquable. Il y a Giorgio Agamben, que je cite à la, page 108, le temps qui reste, a donné des clés d'interprétation de ce texte. Voyez, vous avez la logique ni homme ni femme, et donc d'une manière nouvelle, homme et femme, à l'image de Dieu, on va y venir. Voyez, c'est là où ça vient. Mais vous avez aussi cette logique dans 1 Corinthiens 7, comme sinon, Vous avez une double affirmation dans ce texte, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. Donc la notion de condition d'homme, de condition de femme, etc. Et en même temps, vous avez la formule, le temps est écourté, désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Comme si non. Donc vous avez à la fois l'affirmation de la condition homme et femme, et ni homme ni femme, comme si non. Comme si non. Vous voyez, ça c'est une manière logique de dire cet itinéraire de conversion dont il s'agit à partir de l'expérience baptismale fondamentale. C'est-à-dire ce rapport interne à la condition corporelle de l'homme se transforme en toutes ses relations. Il ne s'agit pas d'indifférence eschatologique, mais au contraire de la mutation, voire du déplacement intime de toute condition mondaine spécifique, dans la mesure où celle-ci est désormais appelée, c'est-à-dire l'expérience baptismale. Donc, je vais expliciter ça la prochaine fois et nous allons voir ensuite comment les états de vie dont j'ai parlé lors de la première séance, le mariage, le célibat, et je vais parler aussi de l'homosexualité, etc., peuvent être comprises à l'intérieur de cette logique de conversion, ni homme ni femme, et pour cela, et homme et femme, et encore autre, etc., parce qu'il y a cette remarquable relativisation eschatologique que la tradition chrétienne, l'expérience baptismale, introduit dans la vie. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Bonne semaine.